RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Vous êtes dans l'After, 28e journée de Ligue 1 qui a débuté ce soir. Nice s'est imposé 2-1 face à Lille, victoire de Monaco ce soir 2-1 face à Bordeaux. Ça joue au Portugal, le classique entre le FC Porto et le Sporting. Il reste un peu moins de 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire et Porto mène 2-1. Marcano a marqué, Raphaël Lyon pour le Sporting, premier but en Liga pour le jeune joueur du Sporting. Et Brahimi, Yacine Brahimi, qui vient donner l'avantage au FC Porto en début de seconde période. Il est pas mal Yacine cette saison.
Il est pas mal du tout.
On attend qu'il soit constant dans les qualités que lui peut démontrer, mais sur le long. Et là, je pense qu'il peut encore plus apporter.
Il est pas mal, le Yacine Brahimi, équipe du FC Porto, entraîné par l'ancien entraîneur du FC Nantes, Sergio Conceição. On continue de dérouler sur ce match entre Monaco et Bordeaux. Victoire 2-1 donc des Bordelais. Vous avez pensé quoi, tiens, de l'ASM ? On vous attend d'ailleurs, un supporter de l'ASM.
Franchement, c'est pas un grand match de la part de Monaco. Je les ai trouvés en termes de jeu, il y avait pas beaucoup de choses qui ont été produites. Les deux buts, le premier, c'est un bel appel de Jovetic dans une défense face aux deux centraux totalement statiques de Bordeaux. Il y a une belle passe aussi en profondeur. Le deuxième but, c'est un peu un exploit de Djibril Sidibé qui va récupérer un ballon sur le côté, qui fait un petit peu l'amour au pauvre Youssouf qui était rentré avant. Mais voilà, enfin, c'est un Monaco qui est assez tranquille, qui n'a pas très grand chose et qui repart avec les 3 points quand même. Je trouve que c'est un Monaco qui est cynique, froid mais efficace.
Ali
domine pas leur adversaire dans la deuxième partie et je crois que ça va être jusqu'à la fin de saison, on va dire, un petit peu du Jardim au niveau d'efficacité, gagner, prendre les 3 points. Ça va être surtout ça jusqu'à la fin de saison, cynique, pour garder cette deuxième place. Ça, ils savent le faire, de toute façon. Et le pire, c'est que les adversaires, ils tombent dans ce piège. Ils disent, on joue contre Monaco, c'est une grosse équipe. On marque but, donc on se relâche, on est bien. Et Monaco, ils adorent ça.
Ouais, non, c'est clair.
Dès que tu commences à te relâcher et qu'à la rigueur, tu commences à attaquer et à te dire des espaces, c'est là où ils en profitent. Mais par contre, c'est vrai que Jonathan, il avait raison. Une passe juste du plat du pied en plein axe et Jovetic est tout seul. Gros problème à Bordeaux en défense.
Et ça fait 13 matchs en défaite pour l'ASM.
Depuis novembre.
Et encore, ils doivent se mordre les doigts de la victoire qu'ils ont un petit peu lâchée.
Contre Toulouse, là.
Ce qui est bien, c'est que regarde, là, ce soir, ils font un match qui n'est pas fabuleux non plus. Et t'as l'impression qu'ils gagnent quand même tranquillement. Alors, avec des joueurs qui, comme Ronny Lopez et comme Jovetic, qui en ce moment porte l'équipe, mais d'autres joueurs qui sont un petit peu des poids morts, comme Rachid Ghezal, encore une fois, qui sort une prestation totalement indigente, ou Thomas Lemar, qui est vraiment très très loin de son niveau.
T'aimes bien ce mot-là, indigente, indigent, tout ça.
Oui, parce que ça renvoie au niveau d'exigence que tu dois avoir quand t'es un joueur de foot. Et quand tu ne mets pas au niveau d'exigence, c'est indigent.
Indigent, voilà. On va accueillir Maxime, qui n'est pas indigent, qui est juste exigeant. Maxime, supporter de l'ASM, salut Maxime.
Salut Maxime. Salut les gars.
Moi j'aime bien un Dijon, par exemple.
Avec modération. Tout le monde aime.
Ah non, tout le monde n'aime pas le Dijon.
C'est qui modération?
Je sais pas, voilà. Qui tu veux. T'aimes bien le Dijon ou pas, Maxime?
Je voulais juste réagir par rapport à ce que tu disais juste avant, mais
on s'en fout.
Exactement, Monaco ce soir, c'était Hitman, c'est-à-dire le sang-froid, un match contrôlé face à une équipe qui défendait à 10. Voilà. Et ils ont eu quoi? Un tir, peut-être dans la surface de réparation de Monaco, il y a eu un tir. Et il y a eu un but.
C'était un petit hold-up quand tu voulais score.
L'AS Monaco, au gérant de Bordeaux. Mais l'AS Monaco, c'était vraiment, du sang-froid. Une attaque qui était, c'était quelque chose qui était contrôle au milieu, malgré un Moutinho qui était très mitigé et je trouve très en dessous. Mais, je voulais vraiment réagir par rapport à un joueur. L'AS Monaco qui était vraiment au-dessus, c'était Sidibé.
Oui. Tu le disais tout à l'heure, Ali, d'ailleurs.
Ouais. J'adore, c'est
exactement.
Je crois que c'est Sidibé, mon joueur préféré de Monaco.
C'est le mec qui a procuré la moitié des occasions aux 16 mètres. C'est simple.
Non, mais
il était offensif, milieu gauche, milieu droit, il était milieu offensif central, il était défenseur central, défenseur droit, c'était exceptionnel. C'était un match tout en finesse.
Mais Maxime,
le mec s'écroule, il a des crampes, il se relève pour l'amour du maillot. C'est exceptionnel, c'était vraiment un match fou de sa part.
Maxime, je crois pas que c'est que l'amour du maillot, Sidibé, c'est-à-dire que c'est le seul joueur par rapport à la saison dernière qui a gardé son rythme toute cette saison encore, qui est très fort, aussi bien à droite qu'à gauche, et qui sera titulaire en équipe de France, ça c'est clair. Et il m'impressionne, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que le rythme qu'il arrive à donner pendant 90 minutes.
C'était la période de Monaco où ils étaient le plus en baisse.
Oui, non, ça c'est sûr. Mais garder le rythme qu'arrive à avoir Sidy B pendant 90 minutes et à chaque match et dans chaque duel, il se retient pas. C'est assez impressionnant parce qu'il est bon défensivement. Il apporte les solutions au milieu et il finit toujours ses actions. C'est quand même impressionnant.
Est-ce qu'il n'est pas un peu sous-coté, Sidy B? Parce que finalement, c'est l'un des mecs dont on parle le moins.
Il est totalement sous-coté.
Complètement. Il est dans la tête de tout le monde. C'est le titulaire en équipe de France.
Ouais, mais presque par défaut, c'est ce que beaucoup disent.
Non, parce qu'il est très bon. Il est très bon. Qui reconnaît pas son niveau?
Non, mais c'est pas ça. Mais tu vois, on parle beaucoup de joueurs de Monaco. Même en équipe de France, c'est pas le nom qui devient à l'esprit tout de suite, Sidy B.
C'est Jallet qui est titulaire à l'esprit de Deschamps actuellement.
Non. Arrête tes conneries, Maxime. Il est blessé. Il vient de se faire opérer, le pauvre.
Il y a Sidy B et les autres.
Mais pour de vrai, est-ce que Sidy B est titulaire actuellement en équipe de France?
Bien sûr.
Oui,
bien sûr.
Oui. Ah oui, par contre,
sans contestation aucune.
C'est d'abord Sidy B et après les autres. On va voir s'il y a quelqu'un d'autre.
Parce qu'on parle même de Bounassar.
Non, on parle surtout même du retour de Debuchy.
Ouais, c'est pas fait.
Non, ça serait possible à la rigueur. Mais je pense que Sidy B a une longueur d'avance, Sidy B.
Il a toujours été dans le mode expérimentation au niveau de Deschamps. C'est ça que finalement je regrette. Parce qu'il n'a pas été un gros titulaire d'équipe de France alors qu'il devrait, tu vois.
C'est ça. Il a été blessé aussi. Il y a une convocation où c'est lui qui doit être titulaire. Il est blessé, c'est pas de sa faute.
Il meilleur que lui en Ligue 1. Même Alves.
Mais il n'y en a pas, c'est le meilleur.
C'est le meilleur.
Alves, il est brésilien. Il n'y a pas photo, mais après, oublie pas.
On parle des Français. On peut t'appeler, Dédé.
Alves, il est brésilien.
Il a été blessé quand même sur quelques rassemblements aussi, ce qui l'a empêché de s'installer vraiment en équipe de France. Mais dans la tête de Deschamps, je pense qu'il est largement titulaire.
Mais sous-côté, je suis d'accord avec toi, Nicolas.
Ouais.
Bon,
ouais.
Après, mis à part lui, au niveau de l'AS Monaco, un mec comme Tielemans, je voulais réagir par rapport à Ghezal.
Ah, il est atroce ce soir.
On l'a eu gratuit. Pour moi, c'était vraiment un bel achat, une belle plus-value au niveau de l'AS Monaco. Mais quand tu vois Ghezal, excusez-moi, mais depuis même le début où il a joué, malgré des pointes de vitesse, etc., dès qu'il est dans un coin, et on sait qu'il va perdre la balle.
Maxime, t'es supporter de l'AS Monaco.
Expérimental, un Robben de Ligue 1, un peu Ligue 2 presque.
Maxime, n'arrête pas.
Maxime, il va toujours tirer du
coup.
Et en fait, c'est toujours stéréotypé. Mais le Ghezal, j'en ai un peu ras-le-bol. Et je pense que
l'AS
Monaco.
Qu'est-ce que tu disais, Maxime? J'ai pas entendu.
Non, arrête tes conneries. Maxime, t'es supporter de l'ASM. On a une surprise pour toi. Deux gloires de ton club. On fait l'apparition dans l'after dans quelques instants. Jérôme Breton, Eric Dimeco.
Deux droitiers.
C'est pas vrai.
Deux droitiers.
Ils sont tout beaux en plus.
Deux gauchers. En plus d'Ali Bellarbia, bien entendu.
Deux gauchers.
C'est
même pas si Jonathan est droitier ou gaucher.
Il y a une vraie légende, c'est Jérôme Breton. Parce que Jérôme, il a fait une finale de Ligue des Champions.
Ouais. Toi aussi, mais tu l'as gagné.
Il y a les fausses légendes.
Tu l'as gagné sur une
de l'AS Monaco, on parle.
Tiens, on se demandait si Sidy B n'est pas un peu sous-coté, les mecs. Vous en pensez quoi? On n'en parle pas énormément de Sidy B. C'est pas forcément le joueur dont on parle le plus à l'AS Monaco, voire même en équipe de France.
Alors, si sous-côté par qui?
Voilà, si sous-côté, ça veut dire qu'on n'en parle pas. Par contre, dans l'esprit de Didier, je peux te dire qu'il n'est pas sous-côté. C'est le titulaire.
Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas autant que ça, alors qu'il fait une saison encore énorme. C'est le seul par rapport à
l'équipe de l'année. Il a eu un petit coup de moins bien au début de saison, Ali.
Ah bah attends, il est impressionnant à chaque match.
Écoute, je le trouve de mieux en mieux. L'année dernière, par moment, je trouvais...
T'as du bide, Jérôme,
ça te décolle.
Si c'est pour dire des conneries comme ça, ça rappelle que tu viens. Et franchement, là, il est bien revenu depuis qu'il s'est réinstallé après sa blessure. Donc je trouve que, bien sûr, que Didier Deschamps, c'est son titulaire. Que la concurrence, peut-être... Debuchy qui va réapparaître parce que il revient de loin, mais bon, on sait jamais s'il continue comme il le fait. Rien ne l'empêche de faire 10 matchs corrects encore.
Fais pas attention à Jonathan parce que là,
c'est dur pour lui. Mais Jonathan nous avait annoncé Bounassar avant la double confrontation contre l'Olympique de Marseille. Alors c'est vrai que les 2x3-0, ça l'a un peu calmé. Même Eric, regarde, il rigole.
Non, on avait dit pas ça, Jérôme. Pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Il y a Jérôme Thomas qui pose une question, bien entendu, notre chef d'édition. Il demande, est-ce que vous pensez qu'Éric Dimeco serait titulaire en équipe de France à gauche, là? Parce que bon, on a Digne et Kurzawa, là.
Mais tous les jours.
Tous les jours.
Quel con.
C'est vrai? Toi, tu penses pas, Eric?
Je sais pas, c'est pas le même football aujourd'hui.
C'est-à-dire?
Tu savais faire des choses avec tes pieds quand même.
Mais si Eric, t'étais attaquant, t'as commencé attaquant.
C'est vrai en plus, t'as commencé attaquant, t'as commencé à ailier.
Je les mettrais devant
en Ligue 1.
Alors, t'es trop modeste, Eric. Qu'est-ce que vous foutez là d'ailleurs tous les deux à ce moment-là?
Mais
on va travailler là.
Parce que nous, on fait quoi, nous?
Non, mais on va travailler et en fait, on m'avait dit.
Ça parle pas assez football.
Non, moi, je fais la semaine, les soirées Ligue des Champions. Et on m'avait dit, le week-end, c'est pas toujours avec des champions. En effet, je confirme, c'est pas toujours avec des champions.
Même la Ligue 2, c'est bien.
Ouais, voilà. Donc, Jonathan, continue. C'est bien.
Bon, travail bien.
Bonne soirée à tous.
Vous avez le vestiaire, c'est ça, les gars.
Le vestiaire.
Sur SFR Sport.
Et à mardi, pour le choc.
Et vous avez révisé les fiches portugaises, ça va parler du classico, là. Porto mène 2-1, là, face au Sporting. Avec Kevin Diaz, un soir.
C'est normal.
Bon, toi, tu connais bien Porto, toi, Jérôme.
J'adore Porto.
Le problème quand il fait le problème quand il fait son apparition comme ça, c'est il y a une chute de
genre sur près des femmes. Dis-moi quoi, Jérôme Bretagne,
c'est pas possible.
Voilà, merci Maxime.
Chez les femmes juste parce qu'il a sa tronche à lui là.
Alors Maxime, redonne-lui la parole. Bonne soirée Maxime.
Merci à vous.
Voilà, c'était pour toi, c'était cadeau Maxime.
Vas-y.
Ciao ciao Maxime. L'autoroute. Bisous, Maxime.
Salut Maxime.
Ah, vous êtes mauvaise langue. On va accueillir Jean-Luc, supporter de Bordeaux. Lui, il est pas content, Jean-Luc, hein, qui nous a appelé au 32-16. T'es là, Jean-Luc?
Bonsoir.
Ça va, Jean-Luc?
Bonsoir, tout le monde. Alors, je ne dirai pas chaque prénom parce que j'ai déjà oublié. Mais parce que j'ai mis une très mauvaise journée. Mémoire des noms, excusez-moi.
Pas grave.
Eh bien, écoutez, moi, je vous écoute, là. J'écoute des supporters bordelais partout sur le net, etc. Et
ils puis, sont pas contents.
Ouais, mais
ils oublient.
J'ai l'impression qu'ils sont étonnés que Bordeaux gagne pas à Monaco, quoi.
Mm-hmm. C'est pas le résultat, Maxime.
Et moi, pourtant, j'adore mon équipe et tout, mais je les trouve vraiment très, très, très faibles, quoi. Je trouve que je me demande vraiment. Écoutez, voilà, je vais vous raconter. Je suis parti à Séville, moi, vivre en 2008. Je suis parti vivre 3 ans à Séville. Je suis revenu et les Bordelais, les Français, ne savaient plus jouer au football. Ils avaient plus de, dans le foot, championnat de France, il y a plus de technique. Les mecs, ils savent pas centrer, ils savent pas faire un contrôle de balle, ils font des passes ratées. Je suis affligé. Et Bordeaux. Mais Bordeaux, ils finiront à la 10e place, c'est bien, mais je vois pas comment ils peuvent faire mieux, quoi, avec ce qu'ils ont. Et c'est d'une faiblesse. Et puis alors après, Poyet, là, il nous fait rentrer le pauvre petit gamin, là, de Youssef, je sais pas trop quoi, là.
Youssouf,
le pauvre, mais qu'est-ce qu'on met un mec comme ça qui est de 65e division, là, la réserve de Bordeaux, elle est descendue. Il le balance tout d'un coup dans un match contre Monaco, là. Mais c'est n'importe quoi. Le pauvre gars, il a pas touché un ballon.
Sur le deuxième but, t'as vu un peu ce qui se passe?
Enfin, les gars, il y a plus chaud comme ambiance que de débuter à Louis II, hein.
C'est
pas un peu le truc,
contre une belle équipe, c'est difficile, Nicolas.
Je te dis pas que c'est facile.
Par contre, ce que dit Jean-Luc, c'est bien parce qu'on n'en a pas souvent qu'il soit parti pendant 2-3 ans, je veux dire, en Espagne et qu'il a pu comparer à son retour.
J'étais abonné au FC Séville, tu te rends compte?
Ouais, ça change. Le rythme est différent.
C'est lent. Regardez Vada sur le premier but. Vada, on lui fait une passe, mais normalement, il ne doit jamais la contrôler. Il doit la remettre en une touche de balle. Il voit qu'il a un mec dans le dos qui le presse. Il faut pas qu'il contrôle, il faut qu'il s'en débarrasse. Et là, il veut la contrôler, ça fait prendre but, boum. Mm-hmm. Et là, en plus, on voit les défenseurs, deux défenseurs centraux.
Complètement écartés.
En position de défenseurs latéraux, là, il y a un boulevard devant. Je comprends pas.
Et la manière dont il resserre, en fait, sur Jovetic, c'est très curieux, quoi, la manière dont ils essaient de le rattraper. Non, mais c'est limite à s'entrer l'un dans l'autre. Pas du tout de sécurité sur le côté opposé au cas où, enfin c'est dingue.
Le deuxième but, Sidibé, il récupère le ballon. Alors je sais pas si c'est Depréville ou Lauraguet là qui va sur lui. J'ai pas bien vu à la télévision.
C'est mais Youssouf.
Non, sur le deuxième but de Monaco.
C'est Youssouf.
C'est Youssouf. Ouais. Ah oui, je croyais que c'était Lauraguet.
Non, c'est Youssouf.
Ouais. Ah bon. Mais le mec, il y va tout doucement, en marchant presque. Il s'arrête, il écarte les jambes. Oh mon Dieu, franchement, hein, que je dis à tous les supporters journalistes qui m'écoutent, les mecs, m'envoyez pas, franchement, j'ai de la peine. Moi, ça fait vachement de peine, quoi. J'étais abonné du temps des quinzaine d'années du temps de Giresse, etc., quoi.
Ah non, c'est vrai. C'était avant 15 ans, ça, encore.
J'étais abonné quand Ali a été champion avec Bordeaux aussi. Vous voyez, là, il y avait du jeu encore, les mecs, ils savaient contrôler une balle. Je me rappelle de Michel Platini qui avait dit un jour, 90% de but, il est dans le contrôle de balle. Mmh. Il a déclaré ça à Platini. Et puis, bon, rappelez-vous la technique du mec, quoi. Et là, les types, regardez, ils font des contrôles à 3 mètres.
C'est vrai que sans parler de Platoche, t'as quand même eu du Mikou, t'as eu des beaux joueurs.
Mais voilà, Bordeaux, il y a eu des joueurs.
Corentin Martins, il y a eu des beaux joueurs.
N'en déplaise à l'ex-gardien de football là, qui commente sur le service public, je crois, qui a déclaré qu'à Bordeaux, il n'y a jamais eu de football. Le pauvre gars, un ancien gardien de D1 qui a dit à l'antenne, à Bordeaux, il n'y a jamais eu de football. je me demande d'où il sortait lui. Enfin bon, bref. Mais voilà.
Je suis pas sûr qu'il ait dit ça comme ça, Jean-Luc.
Non, si, il avait dit sérieusement. Hein. Comment il s'appelle le gars?
Oui, Jérôme Alonso. Mais le connaissant. Il devait faire référence à une période précise,
ses mots, c'était de dire il n'y a jamais eu de football.
Non, je pense que ça devait être. J'ai pas entendu, je t'avoue. On s'en fout, de toute façon.
Repassez le boulot. Enfin bon, moi, encore une fois, je suis atterré par le niveau technique de l'équipe, quoi. Le niveau technique, la vision du jeu.
Mais là, ce soir, Jean-Luc, ce qui est dramatique, c'est qu'il n'y a pas le niveau technique, il y aura des pâquerettes. La vision du jeu, ça va de pair avec l'intelligence. Moi, j'insiste là-dessus, c'est au moins quand t'es une équipe moyenne, que t'es limité, que t'as un entraîneur qui vient d'arriver, qui a pas encore eu le temps de mettre en place tout ce qu'il avait envie, donne-toi un fond.
Alors, c'est quoi, Jean-Luc?
Là, c'était des plots.
Alors, Jean-Luc, Il y a un truc que je trouve dingue, moi, par rapport à il y a une quinzaine d'années aussi. Ouais. C'est les maillots de Bordeaux.
Ah, ils sont atroces.
Oh putain. Alors là, non mais. J'ai fait exprès de mettre un up et une chemise aux couleurs du truc. C'était une dédicace.
Le maillot carte postale, j'adore. Excusez-moi, désolé, mais j'adore. Où il y a la fontaine de Bordeaux tout dessus, là. Moi, je trouve super beau ce maillot. Mais après, c'est une affaire de goût.
Ah, mais les couleurs, là, le rose avec le violet et tout, là.
Moi, je suis contre. Je suis contre dans le sens.
On dirait mes nœuds papes.
Respecte tes traditions.
Quand je vois.
Normal, avec le scapulaire blanc, voilà.
Quand je vois d'avoir des maillots extérieurs et tout ça.
Ouais, mais pas aussi dégueulasse que ça.
Qui est le marketing, c'est une chose. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais arrive un moment, les couleurs du club, et quand l'adversaire est à l'opposé de tes couleurs, mets tes couleurs.
Exactement.
J'avais l'habitude de jouer, quand tu joues contre Marseille au Vélodrome, ils étaient en blanc.
Marine et blanc,
Maintenant, ils sont bleus,
Ils sont toujours blancs au Vélodrome, ça, faut pas dire de bêtises.
Ah, des fois, ils sont souvent bleus aussi.
Au Vélodrome, ils sont toujours en blanc.
Mais attends,
vérifie.
C'est pas choquant quand c'est Marseille.
Au Vélodrome, ils sont toujours en blanc.
La plupart des équipes maintenant ils changent leur couleur.
Après, moi, ils pourraient jouer avec une plume dans le cul si vous voulez, à condition qu'ils donnent. Franchement, quoi.
Ils en prendraient autant.
Attention, au Vélodrome, ils sont toujours en blanc.
C'est que c'est compliqué de jouer avec une plume dans le cul, Jean. Au niveau des appels, bien sûr que j'ai
essayé. Ça sent le vécu.
Bien sûr que j'ai essayé. Tu l'as vécu d'ailleurs, Bon Jean-Luc, merci.
Salut Jean-Luc.
Quand tu l'as vu, bonne soirée, merci Jean-Luc.
Merci à vous,
quand tu l'as vu, tu restes droit.
Encore une fois, que les supporters bordelais, ils n'en veillent pas. Je suis désolé.
On va leur donner ton numéro, ton adresse standard. T'inquiète pas, mon pote, ils seront en bas de chez toi. T'attends.
Non, mais je suis planqué, moi.
Salut Jean-Luc.
Salut les mecs.
Ciao. On va se faire l'évaluation, messieurs, de ce Monaco-Bordeaux. On rappelle victoire 2-1 de Monaco. Les buteurs Jovetic et Roni pour l'ASM, Vada pour Bordeaux. On est avec Jérôme, supporter des Girondins, justement. Lui aussi nous a appelé au 32-16. Il est en direct dans l'after. Salut Jérôme.
Oui, bonsoir l'équipe.
Ça va, Jérôme.
Ça va. Bon, un peu déçu de ce soir.
Ouais.
Encore une fois. Voilà, Bordeaux, ils font 20-30 premières minutes assez bonnes, on va dire.
On y croit.
Et après, manque de chance. Encore une fois, À 45e minute, on se prend un but inutile, quoi. Une perte de balle au milieu de terrain par Vada. Encore une fois, on perd un ballon dans l'axe. Et Dieu sait que le football dans l'axe, c'est fatal, hein, ça pardonne pas. Hein. Donc voilà, donc ensuite, c'est Monaco en face, hein, c'est pas grande ville, hein, on va dire.
Ouais. Dis-moi, Jérôme, qui pour toi était l'homme de ce match?
Sabali, il a fait. Moi, c'est le seul qui a joué, quoi. Qui a joué, qui a essayé de percer, qui a essayé de faire des centres à peu près propres. Voilà. Sabali, il a fait un bon match. Après, aussi, voilà, on manque de chance parce qu'on perd Pablo. Après, si Pablo, il est sur le tout le terme du match, tout le long du match, je pense que le score, c'est pas le même. Hein, parce que si vous regardez bien sur le second but, on perd le ballon, enfin. De Trésil, il va pas presser, c'est qui le monégasque qui centre?
Oui, mais attends. Jérôme, ils sont 4 dans la surface. Il n'y en a aucun qui va au premier. Même si le mec il centre, c'est pas un problème. Mais tu peux pas laisser un joueur au premier. Ça peut arriver au deuxième poteau, oui, parce que c'est dans ton dos, mais pas devant toi. Mais 4 défenseurs qui couvrent quoi? Le gardien de but, mais il n'a pas besoin de le gardien. Alors pourquoi au moins un ou des deux, tu attaques, on dit toujours en avançant, et le centre vient de la droite. Donc les 4 sont figés, Lopez il a le temps de contrôler et marquer.
Oui, mais De Préville, il est dans la course. Et à un moment donné, il se décale.
C'est l'attaquant de Préville, c'est pas lui. Je te parle pas des 4 défenseurs.
C'est vrai qu'il va pas au pressing, mais bon, d'un côté, tu vois, Sidibé, il fait un exploit. Attends, Youssouf qui le prend. Il a pas écarté les jambes comme ça.
C'est les 4 défenseurs.
Et t'as surtout, exactement, t'as tes 4 défenseurs qui sont dans la surface.
Ils ont personne.
Ils ont même pas le réflexe de regarder, justement, l'appel de Ronnie Lopez. Alors que je le vois arriver à des kilomètres.
Au premier poteau, t'es face au jeu.
Et Jérôme, du coup, c'est qui ton boulet ce soir, toi?
Le petit jeune à Youssouf qui est rentré la semaine passée.
Ah, s'il a été horrible.
Oui, mais ça fait. C'est
franchement,
pas sa faute,
il a été horrible. C'est, bon, après, en tant que titulaire. En tant que titulaire, un peu tout le monde. Même Plasil.
Et Baïs, il n'a pas forcément marqué des points. Hein. Non, c'est pas le match le plus simple non plus.
Sa responsabilité est engagée sur les deux buts.
Ça se voit qu'il a un petit peu peur maintenant. Hein. Il n'est pas serein.
Il nous a fait du bien.
On l'a pas vu non plus beaucoup quand il est rentré.
Oui, mais bon, il a un peu pesé. C'est le seul qui prenait le ballon de la tête en attaque. Bon, après, voilà.
On ne peut pas mettre grande personne.
L'homme du match, c'est pour moi, c'est Jovetic.
Ronnie Lopez,
ce match, avec Ronnie Lopez, les deux.
Les deux sont sur la même forme. Les deux ont marqué 4 buts sur les 3 derniers matchs.
J'ai adoré son match. C'est l'intelligence de chacun de ses déplacements. La manière. Sidibé, je lui mettrais que c'est le taulier.
Ouais, il est très, très
c'est le
taulier bon.
Parce qu'il est toujours là.
Il a fait un bon match.
Il est décisif. Si tu peux toujours compter sur lui.
Il est impressionnant.
Et Casper, il nous manque le Casper. Casper, moi, je mets Rachid Ghezal.
C'est vrai qu'il n'a pas été vraiment pas
comme à chaque fois, t'en as après lui.
Non,
Jérôme.
Si.
Merci, Jérôme.
À la base.
Je vous remercie.
Bon, bonne soirée à toi, Jérôme. À bientôt. Salut, Jérôme. À bientôt.
Salut, Jérôme.
Voilà. Merci.
Salut. Tiens, on rappelle donc que Monaco s'est imposé 2-1 face à Bordeaux. Supporters de Lille, supporters de Nice, on vous attend au 32-16 dans quelques instants. On va revenir sur la victoire niçoise 2-1 face à Lille. Lille qui sera avant-dernier à l'issue de cette journée, quoi qu'il arrive, quel que soit X, comme dit l'autre. Tiens, et j'en profite également pour vous dire, soyez prudents sur les routes. Tu sais, il y a pas mal de chassés croisés en ce moment. Il y en a beaucoup qui vont au ski. Voilà, et j'en profite pour embrasser la famille Rangée qui va du côté de la Plagne. A tout de suite au 32-16, supporters de Lille et de Nice avec Ali Benarbia et Jonathan McCarty. Bisous.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et Jonathan McCarty et vous sur le hashtag RMC Live et au 32-16, bien entendu. Monaco a battu Bordeaux ce soir 2-1, première affiche de la 28e journée de Ligue 1, c'est la deuxième même, parce que la première c'était Nice face à Lille, et Nice qui a battu Lille 2-1, les Lillois qui termineront cette journée 19e, ils ont perdu une fois encore les Lillois, et Nice qui avec ce succès eh bien revient à hauteur de Montpellier et Nantes, ils sont 7e les Niçois, mais à égalité de points donc avec Montpellier et Nantes, Montpellier qui est 5e.
De points, ils se retrouvent 7e.
Ça vient de se finir au Portugal entre le FC Porto et le Sporting il y a quelques secondes, et le FC Porto s'est imposé 2-1 avec notamment un but de Brahimi, ça fait 8 points d'avance pour le FC Porto sur le Sporting et 5 points d'avance sur le Benfica. Le Benfica qui jouera face au Maritimo. Tiens, si vous êtes supporter de ces équipes, exactement. Appelez-nous au 32-16, on essaiera d'y revenir tout à l'heure. D'abord, cette victoire de Nice face à Lille. Nice qui a marqué le premier à la 5e grâce à Balotelli, égalisation d'Araujo à la 51e. Et Cyprien a donné la victoire aux Aiglons à la 80e minute de jeu. Après 7 matchs en victoire, hein, quand même, toutes compètes confondues, Nice se remet à gagner. Et par contre, ça fait 5 matchs en victoire maintenant pour le LOSC. Vous retenez quoi d'ailleurs, vous? Plutôt Nice qui se relance ou Lille qui chute encore?
Les deux.
Ouais.
Nice se relance parce qu'ils en avaient besoin. Et Nice, elle est dans la continuité d'avoir des problèmes dans les zones de vérité et dans les moments de vérité. Donc ça fait que c'est encore un gros coup de casserole pour les Lillois, déjà qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Et Nice, par contre, c'est le contraire, à domicile, de faire match nul contre Lille, ça aurait été une catastrophe pour les Niçois. Vraiment une catastrophe. Et Cyprien les sauve un petit peu à la fin. Et ça fait plaisir de voir un joueur
comme Cyprien qui, nous a,
son but,
qui nous a régalé la semaine dernière, qui revienne sur le terrain.
Le truc, c'est que tu le sentais venir qu'ils allaient mettre le deuxième but, les Niçois. Parce que c'était tellement fébrile, t'avais l'impression qu'au fur et à mesure que le match avançait, les Lillois se faisaient dessus, ça s'est recruté dans tous les sens, ça reculait au milieu de terrain. Au milieu de terrain, ça prenait.
Les gens t'entendent pas, c'est dommage.
Au milieu de terrain, ça prenait totalement l'eau, merci Nico.
Déjà qu'ils te voient sur BFM Sport, c'est pas
je sais pas, bon, ok. Au milieu de terrain, ils prenaient vraiment l'eau et c'était inéluctable. Tu sentais que c'était une évidence que Lille ne pouvait pas repartir au moins avec un point. Et c'est ça qui est vraiment très inquiétant parce que Nice, ils ont pas été mal sur ce match-là. Encore une fois, la différence, c'est la montée en régime de Cyprien qui est de mieux en mieux. Mais très franchement, le LOSC, je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai l'impression que les joueurs ont lâché. T'auras beau mettre Galtier, un magicien, une fée clochette, qui tu veux. J'ai l'impression qu'ils y vont tout droit. Il y a trop un mauvais karma autour de ce club-là.
Par contre, on n'a pas fait trop attention, mais Balotelli, sans que Nice fasse une grosse saison, il en est déjà à 14 buts.
14 en Ligue 1, 22 toutes compètes confondues. Hein. C'est la meilleure saison de sa carrière, hein, statistiquement.
14 buts en 20 matchs, c'est.
Ah ouais. Non, mais il est impressionnant.
C'est quand même impressionnant. Et il joue pas tous les matchs.
Non, c'est vrai. Il a été suspendu, blessé par moment. On va accueillir Pierre, supporter du LOSC, qui nous a appelé au 32-16. Salut Pierre, bienvenue à toi dans l'after.
Bonsoir.
On ne jette pas la pierre.
Alors Pierre, toi tu dois être très déçu, hein, j'imagine. Pierre, ça commence à devenir compliqué là pour Lille, qui sera donc avant-dernier à l'issue de cette journée, quoi qu'il arrive. T'es dans quel état d'esprit toi Pierre, du coup là? T'es résigné, t'y crois encore
C'est pas la première fois qu'on en discute. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'en discuter, notamment avec Jonathan, depuis la deuxième journée, donc juste après la victoire contre Nantes. Mais c'est le même scénario qui se répète toutes les semaines, et toutes les semaines on fait le même bilan et on a l'impression qu'on ne fait pas attention à ce qui arrive derrière nous. Et pourtant c'est bien là, la Ligue 2 arrive vraiment, et j'ai l'impression que dans ce club-là, que ce soit au niveau de l'entraîneur, des joueurs et même des supporters, on voit pas ce danger arriver. Et pourtant chaque semaine passe et ça approche et je commence vraiment à être inquiet. Et il y a un manque total de motivation des joueurs sur le terrain et ils ne sont pas concernés. Je vais prendre un exemple. Il y a des joueurs qui, juste après le match, donc après une défaite, on les voit, mais une demi-heure après, faire des selfies, les poster sur leur compte, sur leurs réseaux sociaux, avec le sourire aux lèvres, etc. Et c'est là, je comprends pas, je vois pas où est en fait leur motivation et l'intérêt qu'ils portent pour ce club, qui est pourtant un club qui a marqué l'histoire de la Ligue 1. On était quand même très souvent dans le top 5 pendant plusieurs années.
Bien sûr.
La Ligue des Champions.
On a performé.
Mais tu n'as plus ces joueurs-là. Ce n'est plus le même effectif.
On les a virés.
Oui, c'est pour ça que ceux qui viennent d'arriver, ils ne connaissent pas tout ça. Il y a eu beaucoup de joueurs étrangers qui ne connaissent pas tout ça. Et on dit souvent que c'est les anciens qui font suivre un petit peu la mentalité. Ils ne sont plus là. Donc pour eux, ils sont là peut-être une saison, voire une saison et demie, comme on leur a dit. Vous brillez un petit peu, après on vous vend ou quoi. Et donc automatiquement, une fois le match terminé, ils ne sont plus dans le club.
Tu sais, moi ce que je trouve inquiétant, c'est que tu parles de la Ligue 2. Déjà, on va voir ce qui se passera administrativement aussi.
Attention, moi, je pense que si sportivement tu as le droit à la relégation, j'ai peur moi de la rétrogradation administrative qui ira bien plus loin.
Alors déjà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'ai l'impression que c'est la structure du club qui est gangrénée en fait par un mal. Le mal, on le sait, on le connaît maintenant. Hein. Moi, j'étais le premier à être un peu naïf cet été à y croire dur comme fer à ce projet-là. Mais le club est gangréné par le manque de solidité et par le manque de stabilité de son investisseur. Et j'ai l'impression que ça se répercute sur le moral des joueurs. Parce que quand je vois des joueurs qui ne sont pas concernés, je pense que les joueurs sont au courant de ce qui se passe,
mais même
de la situation du club, les supporters aussi évidemment. Mais les joueurs qu'on dit pas concernés, je pense qu'ils savent quand même que le club, c'est un bateau qui est en train de couler. Et j'ai l'impression que quand le bateau coule, t'as pas l'amour du joueurs, que ces anciens qui auraient l'amour du maillot et qui seraient prêts à les poser sur la table et à aller un peu transpirer un peu pour sauver l'institution lilloise. Là, c'est des joueurs qui n'ont pas la sensibilité, qui sont pour beaucoup d'entre eux, c'est leur premier club européen. C'est dur de leur demander de se sentir investi comme ça. Et franchement, je veux revenir juste un petit peu sur Christophe Galtier. Christophe Galtier, tu t'attends à quoi quand il prend le LOSC? À ce qu'il stabilise l'équipe, à ce qu'il ne fasse pas forcément du spectacle, mais à ce qu'il qu'il resserre les boulons, que ton équipe soit solide derrière, que ton équipe arrête de prendre des buts naïfs, que ton équipe fasse plein de 0-0 dégueulasses et plein de victoires 1-0 dégueulasses, mais comment ça t'amène le maintien. Là, Christophe Galtier, j'ai l'impression, et je suis surpris, parce que c'est pas forcément un entraîneur que j'apprécie beaucoup, mais c'est un entraîneur que je sais que c'est un entraîneur qui sait solidifier ses équipes, les rendre imperméables et arriver à gagner, avoir des résultats avec pas forcément beaucoup de moyens, et je suis surpris que là de le sentir aussi dépassé par les événements.
On l'entend surtout sur ses en conférence de presse, je sais pas si tu as l'occasion de les
écouter.
Si, je
l'ai regardé.
Il est indigné, en fait il comprend pas le comportement des supporters, et moi ce que je comprends pas non plus, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, Luis Campos est arrivé la fleur au fusil donc à Team Duga sur les antennes d'RMC, en me disant que tout allait bien, qu'on allait s'en sortir, que financièrement les comptes seront remis à zéro cet été et qu'on recommencerait une bonne campagne de recrutement. Mais comment tu peux nous faire avaler ça dans la situation dans laquelle se trouve le club? Et même, j'ai regardé une interview d'Eden Hazard il y a pas longtemps aussi, qui ne comprenait pas non plus la situation du club et qui avait de la peine.
Oui, mais tu veux qu'il dise quoi, Pierre? Parce qu'au final, s'il a un discours alarmiste, il va peut-être enfoncer encore plus ses joueurs. Ils sont jeunes en plus, tu vois.
Il y a quand même un manque de communication de leur part. Gérard Lopez, je le vois même pas communiquer.
Je peux dire juste ce que je pense vraiment. C'est peut-être un critère qu'il faut prendre en compte. C'est, je pense qu'aussi, les déclats qu'il fait chez Team Duga, il le fait pour rassurer un petit peu les investisseurs qui sont derrière le projet.
Campos, il est obligé de faire ça de toute façon. Sinon, tu viens pas parler.
Tu sais comment c'est dans les milieux économiques. Tu dois, la confiance, c'est quelque chose d'impalpable, mais qui est vraiment important.
Surtout, Galtier ne s'attendait pas. Il pensait vraiment que c'était un super effectif et il s'attendait pas à ce qu'il a en ce moment au niveau caractère de joueur, pas au niveau qualité.
On va l'écouter, Christophe Galtier, à l'issue de cette défaite demain, cet après-midi à Nice. Lui, il estime que son équipe n'a pas été récompensée, l'entraîneur des deux.
Sur cette défaite-là, les joueurs ne sont pas récompensés par rapport à tout ce qu'ils ont mis dans le match. Mais il faut garder espoir. Et il n'y a que se réfugier dans le travail, dans l'état d'esprit pour sortir de cette situation-là. Je sais que nos supporters sont inquiets, certains ont même peur, je peux les comprendre, mais si les joueurs y mettent autant dans les matchs qui vont arriver, je reste persuadé qu'on aura des victoires et qui nous permettront d'espérer se sortir de cette situation-là.
Et vous savez quoi, moi, il me fait même presque de la peine aussi. Quand tu vois ce que le mec arrive à construire à Saint-Étienne, il attend un autre projet. Il a le rêve d'aller en PL en Angleterre. Ça vient pas. Bon, il se retrouve à Lille. La situation, elle est pas ouf. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure à Lille. Et nous, on a eu des échos aussi en off. Mais c'est vrai que quand lui arrive à Lille, il pense trouver autre chose. C'est-à-dire, il déchante très vite quand même, Galtier. Oui, ça se voit quand même aussi là, Pierre, dans son discours. C'est ça aussi peut-être qui est inquiétant, non?
Sur les scores, j'ai entendu, c'est un peu la symphonie numéro 15 de Beethoven.
Je crois pas du tout à...
Même lui ne croit pas à ce qu'il raconte là à l'antenne. Et c'est inquiétant parce qu'il doit se dire effectivement, mais où est-ce que je me suis embarqué? Est-ce que moi, sur mon CV, ça va faire correct si jamais Lille descend en Ligue 2?
Bon, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a le fait que je pense que ça l'emmerdera tout court.
Je comprends vraiment pas pourquoi il a accepté ce poste-là.
Parce que c'était un ancien de Lille et qu'il voulait retourner sur le terrain.
Ouais, mais dans la dynamique de sa carrière, après avoir passé autant de temps sur un banc, j'aurais vraiment cru qu'il se laisserait une année sabbatique au moins, tu vois. Il reprend que six mois. Alors peut-être qu'il avait la bougeotte et que c'est le genre de personne qui supporte pas de rien faire chez soi. Mais c'est dommage parce qu'il est en train de, quoi qu'il arrive, il aura un petit peu écorné sa réputation qui était quand même flatteuse.
Mais ça fait rêver.
Après, les gens savent que c'est pas forcément lui, mais.
Non, mais ça faisait rêver ce grand stade, Lille, reprenant.
Il a joué là-bas, hein. C'est le club pour lequel il a le plus joué. Voilà,
c'est pour ça. Ingla, Campos, il s'est dit, Bielsa, il s'est planté. Moi, si je rassure, ça se peut que les dirigeants vont me donner un peu plus pour la saison prochaine, tu vois. Ben, en fait, non.
Tiens, Flavien Ziolkowski est allé regarder. Hein. C'était son 11e match à la tête du LOSC. Il compte que 3 victoires, hein, toutes compètes confondues, Galtier. C'est pas beaucoup, Pierre. En tout cas, t'as l'air inquiet, Pierre. Juste, tiens, une petite nouvelle également. Sachez, vous avez vu qu'Edgar Yé était sorti sonné.
Il est resté à l'hôpital, là, c'est ça?
Exactement. Nouvelle qui nous vient de Jean Baumel et Flo Germain qui ont commenté ce match. Il va passer la nuit en observation pour des examens complémentaires. Il rentrera pas avec le groupe lillois, le défenseur portugais. Alors, les premiers examens étaient plutôt rassurants. Et lorsqu'il a été transporté à l'hôpital et qu'il a quitté le stade, il était conscient, bon, il avait subi un gros chaos, Edgarier.
Un protocole commotion, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
C'est pas, il y a rien de grave.
Prochain match de Lille, ce sera face à Montpellier. Ensuite, il y aura un déplacement à Monaco. C'est chaud, ça, Pierre, quand même. Hein.
Le déplacement à Montpellier, ça va être compliqué parce que.
Non, c'est à Montpellier. C'est contre Montpellier et à Monaco.
C'est contre Montpellier, ça va être compliqué. Et le déplacement à Monaco, ça va être très compliqué quand on voit un peu la prestation de Bordeaux ce soir.
Ça pourrait bien faire 0 points.
Et le match qui suit, c'est contre Amiens.
Celui-là, il va être surtout Montpellier qui sont géniaux.
Montpellier, ils sont chiants à jouer.
Vas-y, Pierre, t'allais dire.
Mais j'ai encore envie d'y croire quand même parce que si on regarde maintenant le classement, statistiquement, bon, ils ont, les équipes devant nous n'ont pas encore joué. Mais il y a quand même un écart qui est très faible entre notre position et puis le premier non relégable. Donc j'espère sincèrement que la situation va s'inverser, qu'on puisse se sauver et qu'on puisse faire table rase de cette saison et repartir sur de bons pieds parce que c'est vraiment inquiétant et je supporte ce club depuis vraiment depuis le début des années 2000 et j'ai jamais vu ce club dans cet état-là et pour ce que ça représente, pour ce que le club représente, qui est un club quand même qui a... C'est le seul club français à avoir gagné à San Siro contre le Milan AC. On a gagné contre Manchester United. On a été champion de France avec une très belle équipe. On a eu des Nazar, des Gervinho, etc.
Comment t'es devenu supporter du LOSC, toi, Pierre?
Parce que je connaissais personnellement l'entraîneur adjoint du LOSC et qui m'avait fait le plaisir une fois de m'accueillir dans les vestiaires. Et c'est comme ça que j'ai eu ce coup de cœur. Mmh. Et c'est vraiment la montée exponentielle de ce club-là. Qui m'a fait rêver, c'est un club, je crois, qui dès sa montée en division 1 avait fait dans le top 5 directement. On avait gagné une Coupe Intertoto, on avait fait de bons parcours en Ligue des Champions, en Champions League. Il y a eu ce sacre de champion qui était magnifique avec une équipe qui respirait le football. On appelait le LOSC, on l'appelait avant le Barcelone français, même si c'était un petit peu.
Ça avec le 4-3-3, avec Cabaye, Balmont, Maroba, Gervinho, Hazard.
C'est une équipe que je comprends.
C'est
un bon joueur, c'est un beau joueur,
t'avais Moussasso.
C'est une équipe que je comparais personnellement à Dortmund, à l'époque où Dortmund était, en 2011, était champion d'Allemagne. C'était la même genre d'équipe. Et pour moi, si le LOSC avait gardé les joueurs qui ont fait qu'ils ont été champions, on aurait peut-être pu avoir le même standing que Dortmund, sans les supporters, etc. Peut-être. Enfin, pas le même engouement. Mais en tout cas, avec les mêmes objectifs. Et, de voir l'état de mon club aujourd'hui, c'est inquiétant. Mais bon, wait and see.
Merci en tout cas Pierre de nous avoir appelé.
Merci, courage, Pierre.
Courage. Merci. Salut Pierre, à très bientôt.
Il faudra beaucoup plus que du courage, je crois, pour ce club.
Ouais. Et là, je vois pas quel levier tu peux activer, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux changer.
Il y a Giorgio qui nous dit sur l'hashtag RMSLive, il fait presque de la peine le Galtier. C'est vrai qu'on a entendu tout à l'heure Christophe Galtier qui avait fait du si bon boulot du côté de Saint-Etienne. Supporter du Paris Saint-Germain, on vous attend au 32-16. Il a fait beaucoup tourner pour le match de demain face à l'Estac. Unai Emery, on vous pose cette question. Est-ce qu'il a raison de faire tourner avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions? Ou est-ce qu'au contraire, il aurait dû faire une répétition générale? Et Lyon éliminé en quart de finale de Coupe de France hier à Caen. Est-ce que Lyon peut encore sauver sa saison? Supporter de l'OL, on vous attend au 32-16. A tout de suite pour la avec Jonathan Macardy et Ali Benarbia.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Jonathan Macardy et Ali Benarbia. Jonathan Macardy qui est enrhumé, qui est éternu.
Un petit peu, oui, j'ai une couche froide.
Alors, qu'est-ce qui t'arrive?
C'est la.
Ah, c'est 2x3-0 là.
Franchement, ça vous me saoulait là.
Bah dis-moi,
vous me saoulez.
Wow, ouais.
Arrêtez, c'est bon. C'est pas passé.
Il faut assumer.
Après, je me suis farci Ducrot, Rotten. Là, ce soir, toi,
tu
m'as rien dit.
Tu viens de dire c'est passé. Non, je t'ai dit, est-ce que t'as réussi à le faire passer?
En plus, tu sais, je m'en fous.
T'as réussi à
le faire passer.
T'as réussi à le faire passer en fait, c'est ça.
Ne rajoute pas Ali, s'il te plaît. T'es un gentleman, sois gentil avec moi.
On vous rappelle, chers gentlemen et gentlewoman. 28e journée de Ligue 1 qui a débuté ce soir. Nice a battu Lille 2-1. Lille qui sera 19e à l'issue de cette journée. Monaco a battu Bordeaux 2-1. Demain à 17h, suite de cette 28e journée, 3 Paris Saint-Germain. Alors beaucoup d'absents du côté du PSG qui mardi aura son 8e de finale retour face au Real Madrid.
Ça fait chier mon petit gazon ça. Hein.
Oui, surtout pour celui qui a pris Neymar, qui en aura donc pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mbappé, c'est Jean-Louis Tour qui l'a, me précise Jérôme Thomas, voilà, dans l'équipe de l'After. Mbappé touche à la cheville droite, il sera pas là. Et en plus de cela, eh bien, Unai Emery a mis au repos Cavani, Pastore, Verratti, Marquinhos. Il a rappelé Caligari, le jeune joueur.
Ouais, c'est ça, ouais.
Wea, Timothy Weah, le fils de Georges.
Avec plaisir de le voir.
Il pourrait être titulaire. Saber Desfarges a mené sa petite enquête. Il pourrait jouer demain son premier match. Première convocation en pro, il pourrait jouer. Il vient de célébrer ses 18 ans il y a quelques jours. Il n'y a toujours pas de Ben Arfa, par contre. Alors lui, qu'il arrive, il ne sera jamais là. Ouf. Il n'y a pas d'attaquant. Le mec, il ne le prend pas. Enfin bref. C'est une autre histoire. On vous pose la question, du coup. Est-ce qu'Unai Emery a raison de faire tourner, ou est-ce qu'il aurait dû faire une répète générale avant ce huitième de finale face à l'Estac? Est-ce qu'il aurait dû tester des petits trucs, des automatismes déjà qu'il aura
dit, là. T'as tout dit en fait.
Automatismes
face à
l'Estac.
Voilà, face à l'Estac. En quoi comment tu veux faire une répétition générale quand tu
pour les automatismes, c'est autre chose qu'à l'entraînement.
Qui est à mille lieues de l'adversaire que tu vas affronter en Ligue des Champions.
Mais à ce moment, qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu, comme d'habitude encore une fois, et on s'y prend mal au niveau du Paris Saint-Germain, c'est que t'arrives au niveau des huitièmes, voire des quarts, avec des joueurs blessés, des joueurs à méforme, alors qu'ils ont été, pendant la première partie, en pleine forme.
Qui est blessé à part Neymar?
On te dit Mbappé.
Mbappé, il a pris un coup, donc
il
le préserve.
Mais c'est pas tout le monde qui a vraiment 100%, en fait. Juste au moment où c'est important.
Mais penses pas justement que ces joueurs-là sont pas, s'il n'y avait pas eu le match contre le Real, ils auraient été dans le groupe, quand même? Avec un petit coup de strap.
Dans le groupe.
Voilà.
C'est pas qu'ils sont blessés. Mais ils arrivent pas frais et à 100% dans ces deux confrontations. C'est le problème que.
Je vois pas pourquoi ça permet de dire ça, en fait. À part Mbappé qui a pris un coup, ça peut arriver à tout le monde. Neymar qui se blesse tout seul, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais les autres joueurs, je vois pas en quoi ils sont pas à 100%, Ali, hein. Juste, ils les reposent. C'est tout. Là où c'est bizarre, je pense.
Non, ils n'ont pas besoin de jouer contre 3 toute façon.
Là où c'est bizarre, c'est Pastore. Pastore, moi je pense qu'il aurait besoin de rythme, d'enchaîner contre Marseille. Bon, il est rentré, il a fait l'amour à la défense marseillaise, il a été.
Non, mais c'est
tu
pas
vois
ça.
Qu'il est en forme,
tu as encore des joueurs qui ne sont pas à 100%.
Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Il a plein de rythme.
Oui, 100%. Pastore n'est pas à 100%. D'accord avec moi?
Il n'est pas dans le groupe.
Thiago Motta n'est pas à 100%.
Mais ça, c'est bizarre.
Non mais Jonathan, Thiago Motta n'est pas à 100%. Diarra n'est pas à 100% non plus.
Mais ils vont peut-être jouer. Ça, parce que tu le fais jouer.
Non, je sais, mais je veux dire, au niveau du rythme, ils ne sont pas à 100%.
Mais au-delà du rythme, est-ce qu'il n'y a pas des automatismes qui peuvent être créés? Il n'y aura pas Neymar, on le sait, face au Real Madrid.
Il y a eu deux matchs contre l'OM, t'as vu, hein. T'as vu que Di Maria, il pouvait parfaitement faire le travail. T'as vu que Pastore, en rentrant, il n'a pas besoin de jouer 36 matchs.
Mais il a besoin de rythme.
Oui, mais après,
c'est un autre match. Jonathan, c'est un autre match. Voilà. C'est ce que je dis.
Ouais, c'est vrai, il est pas sympa, Laurent.
Non, mais je parlais à la régie, fallait pas le dire.
Ouais.
Non, il y a Laurent Fala, vous savez, notre community manager, qui vous a lancé le sondage sur le compte Twitter de l'After. Emery a-t-il raison de faire tourner à 3 samedi? Pour l'instant, vous êtes près de 4000 à avoir voté. 91% de oui, 9% de non.
Oui, complètement.
On va prendre l'avis de Aïssa, qui nous a appelé au 32-16, qui est supporter du Paris Saint-Germain et qui est en direct dans l'After. Salut Aïssa.
Oui, bonjour monsieur.
Salut Aïssa.
Ça se passe bien aux bêtises?
C'est bon, ça. Putain, c'est vachement drôle, ça.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. La blague est pas mal.
C'est toi qui dis ça, Nico, sérieux.
Ouais, c'est vrai.
Tu peux pas te permettre ça.
Alors, et ça, on te pose la question à toi aussi. Est-ce qu'il a raison, Unai Emery, de faire autant tourner avant ce match face au Real Madrid? Parce qu'après tout, c'est 3, c'est pas le Real Madrid, c'est pas Valladolid, quoi. Mais, ou est-ce qu'au contraire, il aurait dû faire une répète générale, tu penses, toi, avant ce huitième de finale retour?
Je pense que la répète générale, de toute façon, il n'y avait pas besoin de faire une répète générale. Mais néanmoins, ce qui est marrant avec ce coach-là, c'est qu'il ne fait pas reposer les joueurs quand il faut le faire. C'est-à-dire que là, il fait reposer les joueurs parce qu'il y a le Real de Madrid. Je pense que son turnover à lui, il est quand même spécial. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
Ce que tu veux dire, Aïssa, c'est que par des moments pendant le match, quand tu as un score de 2-0, 3-0, c'est à ce moment-là que tes joueurs importants, tu peux les faire sortir en sachant. Et ça, il ne le fait pas, ça.
Non, mais même dans sa gestion humaine, je pense que c'est un coach qui est assez spécial, on va arrêter de se mentir. C'est-à-dire que quand même, quand il y a le PSG-Marseille, le classico de dimanche soir, au moment où tu gagnes 3-0, Neymar, tu peux le sortir. Là, c'est sur votre activité. Il y a quand même des choses qui sont quand même assez hallucinantes. Maintenant, qu'il va se reposer les cadres contre 3, bien évidemment, il a bien raison de le faire. Mais après, moi, je suis désolé, Pastore, il est déjà assez reposé, il a déjà été assez
reposé. Exactement, il a besoin de jouer, Pastore. Ouais.
Donc, à un moment donné, il a besoin aussi de rythme. Mm-hmm. Je pense que, voilà, on verra dans un gros match où, justement, c'est la qualification qui est primordiale. Il faut mettre deux buts, il faut avoir des forces en vigueur qui sont sur le terrain. Est-ce que c'est une bonne solution? Oui, il a raison de les préserver. Mais à quel prix? C'est-à-dire que là, c'est la qualification qu'il nous faut. C'est pas comme ça, d'un coup, ben là, je repose les cadres, Verratti. Ça fait combien de temps que Verratti n'a pas joué? C'est un petit moment quand même.
Il va jouer là, non?
Ouais, il a joué, mais bon, il n'a pas joué énormément non plus.
Mais là, il va jouer.
Non, il n'est pas dans le groupe.
Ah,
il
est
pas
oui,
dans
oui, groupe, là, non. Il va jouer. Non, il n'est pas dans le groupe demain.
Non, il n'y a pas Cavani, Pastore, Marquinhos, je vous rappelle, Mbappé et bon, et Neymar.
Verratti avait des douleurs aussi.
Donc voilà, mais je pense qu'à un moment donné, je pense que le turnover, c'est plus que ça, c'est plus que c'est sur la saison entière, en tout cas depuis le début de la saison, il ne fait pas assez tourner, il s'est mis sur une ossature où il garde ses cadres vraiment, il veut les avoir sur le terrain, et là, où justement on a besoin d'avoir des joueurs qui ont besoin de confiance, il leur a pas donné assez de confiance. Je pense que c'est plus collectivement dans le groupe où il a un petit peu, entre guillemets, vraiment merdé.
Aïssa,
il a pas tenu son groupe en haleine.
Il y a quelque chose qui m'inquiète un tout petit peu, et je me trompe peut-être, mais c'est juste une impression, Ali, tu vas me confirmer ou m'infirmer, mais c'est que, tu sais, toutes ces grosses équipes, style Real Madrid, Barça, Bayern, t'as l'impression que dès que les matchs à élimination directe arrivent, c'est que physiquement, je te parle juste physiquement, t'as l'impression qu'ils montent en puissance, que c'est crescendo, que ça devient des avions. Et là, j'ai pas l'impression qu'on a ça du côté du PSG. Et je me demande, en fait, s'il n'y a pas un problème, tout simplement, aussi, de préparation physique.
On l'a vu avec le Real, notamment, face au Paris Saint-Germain.
Avec Pintus, qui est un vrai fou furieux comme préparateur.
La plupart des grands clubs, les matchs de poule, ils sont moyens. Ils se qualifient juste. Et souvent, le Paris Saint-Germain, il met des 4-0, des 5-0, on dit, oh, ils sont bons, ils sont top. Et en fait, c'est pas ce moment-là où il faut être prêt. C'est dans les confrontations directes avec les gros clubs, même avec des clubs comme le Shakhtar ou quoi, c'est là que tu dois être à 100%.
Ouais,
et à chaque fois, le PSG, il y a des points d'interrogation et il y a des blessés.
Mais je pense qu'il y a aussi un problème de préparation physique, alors.
Il a pas tenu assez son groupe en haleine. C'est-à-dire que comment on peut se priver, par exemple, de faire rentrer, par exemple, un Di Maria, des mecs en plus qui marchent sur l'eau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Di Maria marche sur l'eau. Mmh. Comment on a pu se passer de le faire rentrer, justement, et même pas de le faire rentrer, moi, pour le match, justement, le Real Madrid, à l'aller, mais complètement. C'est-à-dire que normalement, dans la logique, c'était Di Maria qui était là, Mbappé revenu justement d'une commotion,
tu peux le faire rentrer
25 minutes, il peut t'éclater la baraque. C'est là où je comprends pas, il a une vraie gestion assez bizarre. Et c'est justement là où je me demande si c'est pas là où le bas blesse. Justement, t'as les grands clubs européens, justement, Marcelo, on a critiqué, il serait pas en forme. Il a fait un match de feu à l'aller. Il sera peut-être pas là au retour. On sait pas. Mais c'est très compliqué.
Bah, il a pris l'entraînement, en tout cas.
Il a pris l'entraînement.
Il sera là, va t'en faire.
J'espère qu'il sera pas là, mais en tout cas, je parle pas humainement. Bah, j'espère qu'il sera là pour la beauté du foot. Mais c'est vrai que Unai Emery a vraiment du mal à gérer vraiment ses joueurs. Je comprends pas. On a des joueurs, faut leur donner du temps de jeu. On parle de vrais joueurs professionnels. Angel Di Maria, c'est un joueur, il aurait dû jouer. Là, on est là, on se dit, ouais, on va les mettre contre trois ou un truc. Mais non. À un moment donné, les joueurs, il fait tourner, il n'y a pas de problème. Mais il leur faut du rythme. Pastore, on sait très bien que c'est un génie. Il peut faire basculer.
Mais il faut
un match.
Du rythme.
Mais est-ce qu'il a du rythme?
Non, en tout cas, il n'en aura pas demain. Non, merci Aïssa de nous avoir appelé.
Merci Aïssa.
À bientôt Aïssa. Salut, ciao, bonne soirée.
Ciao
Aïssa. On va accueillir Aziz, autre supporter du PSG qui nous appelle au 32-16. Salut Aziz.
Oui, bonsoir l'équipe. Salut tout le monde.
Salut Aziz.
Ça va les gars. Bon, je vais revenir sur ce que disait l'ancien. L'auditeur avant là.
Aïssa, oui.
Le PSG n'est pas un grand club. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Le Bayern de Munich, pendant la phase de poule, ça n'allait pas. Tout de suite, ils l'ont sauté, Ancelotti. Tout de suite. Là, Paris Saint-Germain, Emery, il se permet de faire des choses, une gestion à sa manière qui ne plaît pas à beaucoup de gens, mais il n'y a rien, il ne se passe rien. C'est toujours normal, il est là, il est en place, il fait des gestions bizarres, on n'arrive pas à comprendre, Di Maria. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus, tout le monde le sait. Mais là-dessus, le PSG n'est pas un grand club. Après, ce que je vais les dire pour le
tu
match
peux pas
de demain...
Juste Aziz, tu peux pas comparer la situation d'Ancelotti au Bayern et puis le PSG qui roule sur la Ligue 1, qui fait une phase de poule en Ligue des Champions, on va pas l'oublier, mais en termes de buts, en termes comptables, c'est énorme ce qu'ils font. Non, Aziz, quand même.
Il faut garder la
raison.
C'est une faute professionnelle.
Oui, mais ça, c'est récent. C'est contre le Real.
C'est une faute professionnelle.
C'est le match aller, il peut encore se rattraper, Aziz. Je te trouve bien pressé à juger ce pauvre Emery.
Écoutez, le lendemain de la remontada, déjà, il aurait dû sauter ce gars.
C'est une autre histoire, ça, c'est vrai.
Il n'aurait jamais dû rester.
Ça, c'est vrai.
Il aurait dû démissionner, même.
Voilà, exactement, tu démissionnes. Bon, sinon, concernant demain, messieurs, c'est demain pour faire de l'argent. Demain, vous mettez trois gagnants.
Ah toi, tu vois pas Paris.
Mais non, mais arrêtez les gars, vous avez vu tous les absents, c'est 3 points cadeaux pour toi.
C'est vrai qu'une ligne d'attaque avec Draxler, Di Maria, un milieu avec Rabiot, Lo Celso, Diarra, ça va perdre contre Aziz quand même.
Tu vas avoir ton équipe du PSG, Aziz.
Mais attends. Non, on en reparlera demain si vous voulez, on se rappelle.
Non mais Aziz, t'as Kurzawa, Kimpembe, Thiago Silva et Meunier, Areola.
Bah, à part Weah, finalement, c'est vrai que
c'est... Non, mais voilà, Lo Celso, Rabiot, Draxler, c'est ce que t'as
Lo Celso, Rabiot, souvent.
Oui, Draxler.
Écoutez,
Lassana,
Moi, je suis d'accord avec vous. Il y a des joueurs qui ne veulent pas se blesser pour postuler éventuellement à une place mardi. Donc, pour moi, ils ne seront pas à 100%. Ils seront à 50, 40%. Sachant qu'ils ont 12 ou 11 points d'avance sur le deuxième.
Monaco.
3 a besoin de points. Ça joue le maintien.
Même si
ils seront plus concernés sur ce match. Vous comprenez?
Mais même si 3 ont besoin de points, mais même si ce PSG joue à 60%, ça sera pas suffisant pour toi. Et bien au contraire, si 3 ils pensent qu'avec cette équipe, ils vont pouvoir aller chercher le PSG, ben c'est là que des joueurs comme Di Maria et Cavani vont se régaler pour les contre-attaques.
Mais dis-moi, Aziz, au final,
vous avez dit Cavani ne joue pas demain.
Non, je veux dire, au contraire, le petit Weah, le petit Draxler et Di Maria vont se régaler pour les camps.
Mais Aziz, au final, tu réponds pas à la question. Est-ce que, selon toi, Unai a raison de faire tourner, ou alors au contraire, tu voulais une répète générale, toi, avant le Real? Ou tu t'en fous?
Franchement, non, il faut faire tourner un peu des joueurs comme...
Ah, donc t'es d'accord avec Emery?
Oui, sur ce coup-là, oui, parce que c'est vraiment rapproché, là. Là,
ça me dit pas si bidon que ça, alors, tu vois.
Ça va vite. Là-dessus, ça va vite. Oui, il faut faire tourner un peu, quand même.
Oui. Salut, Aziz.
Ça va très, très vite.
C'est toi qui dois avoir rejoint, maintenant.
Je crois que c'est lui.
Non, mais attends, il est haut.
Et je croyais qu'il avait dit salut, et c'est pour ça, j'ai pas...
Tu nous appelles d'où, Aziz, d'ailleurs?
De Paris.
D'accord.
De Paris, ok.
Et bah, tu sais quoi, on te fait un petit cadeau. Hurricane. Là, le DVD de Hurricane par le réalisateur de Fast.
C'est gentil.
Tu l'as vu ou pas?
Non, pas du tout.
Bah écoute, c'est un braquage organisé en plein ouragan avec à la clé 600 millions de dollars.
Voilà. Pas mal.
Ah.
Ah non, c'est deux places, c'est pas un DVD, c'est pour aller au ciné. Putain, c'est encore mieux,
c'est
vient
encore
de sortir.
Mieux, ouais.
Je suis allé au total.
C'est encore mieux, ça. C'est
bah bien sûr, t'emmènes ta meuf au ciné, puis t'es bien, quoi.
Exactement, on emmène madame.
Voilà, t'emmèneras madame. Merci, Aziz, de nous avoir appelé.
Merci, Aziz.
Merci, bonne soirée. Bon ciné. Et raccroche pas qu'on te file les places.
Sois pas si négatif que ça, Aziz.
S'en fout, il va avoir Hurricane, s'en fout du PSG maintenant.
Comment il peut être négatif en ayant battu l'OM 2-3-0?
Tais-toi.
Non, pour un supporter, je te parle. Et le mec, il a peur. Tiens, 3. Il a peur de 3, il a pas peur de Marseille.
Petite info, Real Madrid. On disait tout à l'heure.
Marcelo.
Avec Aïssa, Marcelo est de retour à l'entraînement. Alors, concernant Kroos, qui est touché au genou, et Modric, qui est touché à la cuisse, Zidane a expliqué en conférence de presse, bah que dalle. Il a dit pour mardi, je ne sais pas, un peu d'intox, hein, très certainement de lapin de Zizou. Ouais. Petite info du jour également, ça concerne le calendrier de la Coupe de France. On connaît l'heure et les dates. Des demi-finales de la Coupe de France.
Alors,
les Herbiers Chambly, voilà, bravo, big up à Stéphane Massala et à la famille Louzy, qu'on l'embrasse d'ailleurs, à qui on présente nos condoléances bien entendu. Mardi 17 avril, coup d'envoi à 21h de cette affiche les Herbiers Chambly, deux équipes de National qui jouent le maintien d'ailleurs en National, qui devraient jouer à la Beaujoire, hein, puisque les Herbiers avaient reçu d'ailleurs Lens à la Beaujoire déjà. Et le 18 avril, il y aura l'autre demi-finale qui sera dans l'anneau entre Caen et le Paris Saint-Germain, et ce sera là aussi à 21h.
C'est à milieu de semaine?
C'est un mardi et mercredi.
Ouais, c'est dommage pour les Herbiers.
C'est vrai que c'est bizarre un peu, non?
Chambly, de que ça soit pas un week-end, un samedi après-midi ou quoi, tu vois.
Bah, surtout que les Herbiers Chambly, enfin Nantes-Chambly, il y a quand même une petite trotte, tu vois.
Bah voilà, c'est dommage.
Entre l'Oise et.
Parce qu'un mardi.
Et Nantes, ouais.
C'est même si c'est assez rare, une demi-finale, c'est quand même pas évident.
Et puis, une petite info également, ça concerne Zlatan Ibrahimovic et Mourinho qui donne des nouvelles de Zlatan. Vous savez qu'il est en fin de contrat en juin prochain, ouais. Zlatan. Alors hier, on en avait parlé dans l'after, il a fait un petit peu du pied pour revenir en équipe nationale, oui. Zlatan Ibrahimovic. Et là aujourd'hui, eh bien, c'est José Mourinho qui donne des nouvelles du Suédois de 36 ans qui a annoncé du côté des États-Unis en MLS. Dans un entretien accordé au Mirror, Mourinho déclare: nous pensons tous que c'est la dernière saison de Zlatan à Manchester United. La décision de continuer à jouer ou arrêter lui appartiendra. Je crois qu'il a gagné le droit de choisir ce qu'il va désormais faire de sa vie, de son avenir. Il est un joueur tellement incroyable, il a eu une carrière incroyable, a déclaré José Mourinho. Ouais. Ça sent le départ de Zlatan.
Oui, complètement. Là, ça sent plus que le départ, et je pense qu'il a déjà dû discuter avec plus ou moins la ville ou le club où il veut aller. Aux États-Unis.
Bah, lui, il a parlé de Los Angeles notamment.
Ouais, je pense.
Il a dit qu'il aimait bien la ville.
Il aura des galettes d'Alessandrini alors.
Il y a aussi son pote.
C'est qui est là-bas, lui.
C'est le meilleur joueur.
Ouais, il y a son pote de Beckham, là, de Miami, lui. Avec la,
ouais,
la
qui est en train de jouer à une nouvelle franchise.
Ouais. Ouais. Ouais,
ça t'aurais jamais aimé jouer, toi, aux États-Unis.
Je préférais jouer en Angleterre.
T'étais mieux au Qatar, toi, c'est ça.
Non, en Angleterre. Au Qatar, oui.
Non, mais pour la fin de carrière.
Je préfère jouer au Qatar qu'aux États-Unis.
Moi, je connais.
Moi, personnellement.
Mais pourquoi?
Parce que t'aimes bien, hein, le
tout.
Qatar.
C'est un tout. C'est un tout, je pense. Découvrir le golf, c'est un tout.
Ah, y a aussi
j'ai eu la chance de,
aussi du golf,
d'aller en Irak, en Jordanie, en Iran, en jouant les matchs Champions League. Ouais. C'est plein de pays à voir.
Moi, je la connais, la raison. Les pépettes. C'est pas à moi que tu vas la faire.
À 35 ans.
Bah, bien sûr, t'as palpé de ouf. Regarde-moi.
T'avances moins. Hein.
Regarde-moi.
À 35 ans, t'as palpé de ouf. T'avances moins.
Bien sûr que c'est vrai.
On va pas continuer à jouer.
Je vous rappelle les résultats. Les premiers de la 28e journée de Ligue 1. Nice a battu Lille 2-1. Monaco a battu Bordeaux 2-1. Monaco qui restera deuxième à l'issue de cette journée. Et Lille qui restera avant-dernier à l'issue de cette journée également.
C'est dur.
Voilà, quoi qu'il arrive. Merci Jonathan Macardy.
De rien. Merci à toi, Nico.
Merci Ali Benardia.
Avec plaisir.
On vous dit à demain. On remercie toutes les équipes techniques qui nous ont aidé à préparer cette émission. Les équipes éditoriales emmenées par Jérôme Thomas et Flavien Ziolkowski. Nous, on vous dit à demain. On vous rappelle également la victoire du FC Porto face au Sporting, 25e journée de Liga portugaise. Ça fait 8 points d'avance pour les hommes de Sergio Conceição sur ceux de Jorge Jesus. Merci à toutes et à tous. On vous dit à demain dans l'After. Bisous. Ciao, ciao.
RMC, le super football show, l'After Foot.